à entendre le témoignage des compagnons d'Emmaüs, on a le sentiment qu'il n'y a pas que la pierre du tombeau qui s'est faite rouler au matin de Pâques. Il y a comme un goût amer au fond de la bouche. Les disciples ont, eux aussi, le sentiment de s'être fait rouler. Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, ben, il nous a déçus. On espérait qu'il allait changer le monde. 3 années à sa suite, à écouter l'enseignement du Fils de Dieu. On avait tout quitté. On a redécouvert avec lui des choses magnifiques, la loi et les prophètes. On a chanté les psaumes. On a mangé ensemble. Il nous avait appris des choses incroyables. Que Dieu aime tous les hommes. Eh bien, ce Jésus de Nazareth, il est mort et enterré. Pire, non seulement il a raté sa vie, mais il a même raté sa mort. Des femmes, oui, des femmes nous ont dit que son corps avait disparu. Il n'y aura donc même pas moyen de bâtir une petite chapelle à sa mémoire, avec une petite plaque, à celui qui nous a bien fait rêver d'un monde meilleur. Et blablabla, et blablabla. Alors, c'est pas moi qui dis blablabla, hein. Je ne me permettrai pas ces familiarités avec l'évangile de Luc. C'est Luc qui nous y invite franchement à ces familiarités. Le verset 15 peut être traduit assez littéralement comme ça. Il parle et il discute. Sa cause. Ça tchatche sur la route d'Emmaüs. Alors, un petit clin d'œil, une petite parenthèse au passage, un petit clin d'œil au prédicateur. Le verbe qui est utilisé pour dire parler ici, dans ce verset 15, donnera un petit mot savant en français pour qualifier l'art de la prédication. L'homilétique. Alors, à bon entendeur, à bon discoureur, je ferme la parenthèse et je reviens au récit. Oui, alors que ce matin-là, il s'est passé l'événement qui vient de transformer le monde. Cléopas et son compagnon, qui sont pourtant détenteurs, dépositaires du témoignage première main des femmes du tombeau, Cléopas et son compagnon jacassent sur le chemin d'Emmaüs. C'est étonnant, cette propension humaine à tout transformer en bavardage. Une pandémie arrête la planète et l'essentiel de notre activité, c'est de nous perdre en conjecture, répétant les discours de gens qui répètent le discours d'autres gens, dans des versions apocalyptiques ou bien optimistes, selon les tempéraments. Quand on est en présence d'un événement, au lieu de le vivre, on le parle, on l'intellectualise, on le traduit, et du même coup, on le tue. C'est à cet exercice-là que s'appliquent les compagnons d'Emmaüs à propos de Jésus et de l'événement de Pâques. Au lieu de saisir l'événement par la foi, au lieu de se laisser remplir de ce vide du tombeau de Pâques, aussi insaisissable soit-il ce vide, eh bien non, il faut qu'il le transforme en discussion de comptoir. Et le comique ou le tragique de la situation, c'est qu'il raconte tout ça au ressuscité en personne. Du haut de leur profonde ignorance, ils s'improvisent enseignants. Enseignants de celui qui sait tout. De celui qui vient de vaincre la mort le matin même. Mais tu ne sais pas ce qui s'est passé? Tu n'écoutes pas Jérusalem Info en continu? De quelle planète débarques-tu ? Sœurs et frères, cette scène finit par me convaincre de, si j'en doutais, de l'infinie patience de Dieu envers nous. Sans se laisser décourager par nos fumeux exposés historico-théologiques, au lieu de fuir nos débats rationalistes ou superspi sur l'action de Dieu dans l'histoire et dans nos vies, eh bien Jésus s'approche pour cheminer en silence à nos côtés, en nous écoutant, cherchant à nous rejoindre sur le lieu même de nos égarements. La route d'Emmaüs, c'est le chemin de l'aveuglement intérieur. C'est la route qui conduit au temple de la raison imbue d'elle-même. Emmaüs, et d'ailleurs c'est pas un hasard de la narration si ce lieu est totalement impossible à localiser sur une carte. On ne sait pas où c'est Emmaüs. On n'en a jamais entendu parler, ni dans l'Ancien Testament, ni ailleurs. C'est un lieu, c'est la route de l'impasse, symboliquement. C'est la route de l'impasse à moins que Jésus ne s'y invite et n'y fasse route avec nous. Sœurs et frères, nous venons de vivre des temps forts avec la Semaine Sainte, les rameaux, la Semaine Sainte, Vendredi Saint et Pâques. Et je me rends compte que nous nous sommes empressés de traduire ces événements en savants bavardages. Nous parlons de Jésus, mais parlons-nous avec Jésus. Nous théorisons, nous théologisons sur la résurrection. Mais combien de temps avons-nous passé avec le ressuscité ? Au matin de Pâques, le mot « résurrection » n'est pas dans la bouche des anges qui ont parlé aux femmes. Ils n'ont parlé aux femmes que du ressuscité, du vivant. Parler de résurrection, que ce soit d'ailleurs pour la nier ou pour en faire la démonstration, c'est transformer l'événement en concept. C'est déjà faire de la philosophie, c'est déjà se distancier intellectuellement ou religieusement d'ailleurs de Jésus vivant et présent. Les gens n'ont pas besoin de discours sur Dieu. Ils ont besoin de Dieu. De Dieu en personne. De Dieu cheminant à leur côté, venant à leur rencontre. Vous pouvez toujours dire à vos amis que vous fréquentez une église sympa, avec des gens sympas, avec un pasteur sympa, j'exagère peut-être, là, et qu'on y réfléchit à des tas de sujets sympas. Et ne vous étonnez pas si vos amis ne viennent pas et s'ils préfèrent rester chez eux. Les gens ont besoin de rencontres avec Dieu, d'événements de rencontres. Pas de nos expériences sympas de vie, de vie d'église, d'action associative, caritative, tout ce que vous voulez. Ils s'en fichent complètement. Mais une rencontre avec le ressuscité, il serait prêt à tout pour vivre ça. Ne serait-ce qu'une seule fois, une seule minute dans leur vie. Avons-nous eu le cran de leur dire dans les yeux: mon ami, je crois et j'en suis sûr que j'ai rencontré le ressuscité. Alors on a trop peur de passer peut-être pour des grands fous. Alors on dit les choses autrement, on les enrobe, on les traduit. Et même une fois qu'on a dit une chose comme ça, on n'a encore fait que parler de Jésus. Mais sommes-nous en relation vivante avec le ressuscité ? C'est plus que des mots, c'est une rencontre et c'est un témoignage de vie. Dieu veut que nous marchions avec lui, pas seulement que nous parlions avec justesse et fidélité de lui. Et Luc précise au verset 16 quelque chose qui a attiré mon attention. Quelque chose les empêchait de le reconnaître. C'est quoi ce truc qui les rend aveugles? C'est quand même un peu important qu'on le sache, parce que ça pourrait nous éviter de perdre la vue à notre tour. Ce qui fait obstacle entre eux et Jésus, ce sont les croyances. Ils savent trop de choses sur Dieu, sur ses promesses, sur son salut, sur la résurrection, sur la vie éternelle. Leur vie est tellement pleine de croyances, de certitudes, de dogmes, de textes, qu'il n'y a plus un millimètre carré d'espace libre pour accueillir la nouveauté de Dieu. Et quand ce quelque chose s'appelle le vivant, le ressuscité, ben alors c'est dramatique. On ne le reconnaît pas. Il n'y a plus de place. Je dois vous faire une petite confidence. Je suis connu à la maison pour chercher mes affaires partout sans les trouver. Mes clés, mes papiers, je vous fais pas toute la liste, c'est tous les jours, presque tout le temps. Et Christine, mon épouse, m'a dit hier, mais c'est normal, tu cherches là où tu t'attends à trouver. Et tu ne trouves rien. Et c'est exactement ce qui arrive à nos compagnons d'Emmaüs. Ils ne peuvent pas trouver parce qu'ils sont plantés dans leur vieille certitude. Il faudrait que nos vies, je ne sais pas comment le dire, se purgent un peu, se vident, se drainent de tout ce qui nous empêche de rencontrer le ressuscité. Et pourtant, Jésus est là, il est ici et maintenant. Il faudra qu'il se passe quelque chose de spécial pour que les disciples d'Emmaüs le rencontrent enfin. Ils rompent le pain et ils reconnaissent à cet instant même leur Seigneur vivant. Alors, on pourra dire qu'on pourrait comprendre que c'est le souvenir du dernier repas, mais je ne crois pas que ce sont nos souvenirs qui nous sauvent. Je crois que ce sont nos rencontres qui nous sauvent. Quand l'heure est venue de passer à table, quand on cesse d'étaler ses connaissances, de bavarder, quand on regarde un peu qui est là, qu'on se sourit, qu'on se détend, qu'on se trouve bien ensemble et qu'on fait de l'espace, oui, en soi pour l'autre. Quand la présence devient réelle, pas dans le pain, mais autour de la table, alors la foi peut commencer à naître. Et pour que ce miracle se produise, peut-être faut-il commencer, sœurs et frères, par arrêter de tout vouloir maîtriser, analyser, de tout peser, de tout quantifier et de nous laisser un peu aller à la joie de la rencontre avec le ressuscité. Alors, pour éviter qu'ils ne retombent aussitôt dans leur travers et qu'ils ne rangent immédiatement cette rencontre de l'auberge dans l'armoire comble d'un nouveau savoir, eh bien, Jésus disparaît. Il leur échappe. Il n'est pas dans le pain, nous l'avons vu, mais il n'est même plus dans l'auberge, il est déjà ailleurs. Il n'est pas dans nos églises dès l'instant où nous croyons l'avoir cerné, il est déjà dehors, il est déjà ailleurs, et il sera désormais à leur côté, dans leur cœur, partout où ils iront, pour raconter cette rencontre. D'ailleurs, il les devance déjà. Vous avez vu la fin du texte? C'est magnifique. Avant même que les témoins d'Emmaüs, on va les appeler comme ça maintenant, c'est plus les compagnons d'Emmaüs, c'est les témoins d'Emmaüs. Avant qu'ils n'arrivent à Jérusalem, eh bien, Jésus a déjà visité leurs copains, les autres disciples. Et voilà que Pierre, avec les onze, se met à évangéliser les compagnons d'Emmaüs. Avant même qu'ils aient pu ouvrir la bouche, avant même qu'ils aient pu se mettre à raconter leur récit d'évangile, ils sont devancés par le témoignage des disciples. Avant d'être des témoins, chers amis, nous sommes d'abord des rencontrés, des visités du Christ. Vivant, il vient et il frappe à la porte de nos cœurs. Il le fait ce matin encore pour toi, pour moi. Alors avant d'en causer, peut-être pourrions-nous commencer par en vivre. Amen.